Le réveil du poète sonne vers 7h30. Le poète étend le bras pour appuyer, avec son index ou son majeur, c'est selon, sur la touche arrêt. Avant d'ouvrir les yeux et de chercher l'interrupteur de sa lampe de chevet pour déclencher le contact et éclairer la chambre si les volets du poète ne sont pas ouverts, et dans la majorité des cas le poète dort les volets ouverts, le poète porte une de ses mains, de façon machinale et instinctive, vers ses parties dites génitales. Le poète se dégage alors de la couette et pose un pied à terre. Il se redresse ensuite complètement, assis sur le côté de son lit, et deux pieds au sol. Le poète se lève, il fait d'abord un pas, puis un second. Les jambes du poète avancent l'une après l'autre jusqu'à la cuisine. Le poète s'approche de la cafetière et la met en route par une simple pression du doigt, car elle prit soin de placer un filtre dans la machine et de le remplir de café la veille au soir pour s'éviter la peine de le faire le lendemain matin. La lumière rouge qui vient de s'allumer est le signal pour le poète que la machine est en marche. Le poète peut alors pivoter d'un quart sur la gauche par un simple mouvement des hanches et le déplacement simultané de sa jambe droite. La jambe gauche du poète avance ensuite, puis la droite, et à nouveau la gauche, et à nouveau la droite. Et à nouveau la gauche, et à nouveau la droite, et à nouveau la droite, et à nouveau la gauche, jusqu'à la salle de bain du poète. Il se place alors, droit, bien qu'un peu voûté, et face au mur, dans le bas des yeux. Le poète n'a pas quitté son pyjama, ni ses chaussettes ou son t-shirt, car il a l'habitude de dormir nu, à l'exception des cas où une personne étrangère, ou du moins ne suscitant pas un rapport de promiscuité tel que cela puisse se produire, dort dans la même pièce. Le rideau de la douche est tiré par un geste de poète à la fois vif et imprécis. Il saisit le pommeau de sa main de poète et tente, tant bien que mal, de régler rapidement la température de l'eau avant de s'en asperger. L'eau qui va bientôt laver et réveiller le poète est d'abord testée sur son poignet. Lorsqu'elle n'est ni trop chaude ni trop froide, le poète fixe le pommeau au niveau du mur carrelé et règle sa hauteur un peu au-dessus de sa tête, de sorte qu'il soit pleinement immergé dans sa diffusion. Il se passe alors les mains sur le visage, en remontant des joues au front, et en redescendant de façon circulaire au niveau des tempes. Le contact de l'eau tiède fait du bien au cœur. Il prend ensuite son savon de poète et le fait mousser dans ses mains par un mouvement de rotation répété. Il se frotte le visage, les bras, les aisselles, le ventre, les jambes, les parties dites génitales, les pieds, tout en laissant l'écoulement de l'eau toujours tiède rincer au fur et à mesure les parties ainsi revivifiées. Le poète recommence jusqu'à ce qu'il se sente un peu plus éveillé. Mais il faut savoir que la durée moyenne de la douche du poète ne dépasse pas 6 minutes 50. La plus rapide étant de 4, la plus longue n'excédant pas les 8 minutes, lui laissant ainsi une marge de 2 minutes environ. Le poète arrête l'eau et fait coulisser le long de la tringle le rideau de la douche pour dégager une ouverture lui permettant, par une simple extension du bras, de se munir de ces tissus spongeux dont il est utile de se servir après une douche ou un bain de poète. Il se saisit donc d'une serviette qu'il a pourtant du mal à trouver et oublie généralement de la sortir au préalable du meuble prévu à cet effet. Le poète se sèche, puis sort de la douche. Il va ensuite dans sa chambre de poète, laissant la porte de la salle de bain bien ouverte, afin que la condensation s'estompe et que disparaisse la buée du miroir, permettant par la suite au poète de se raser avec une plus grande efficacité et une sûreté accrue. Le poète, une fois près de son lit, se penche et ramasse le caleçon qu'il a nonchalamment laissé traîner la veille au soir, dans un geste négligent, à moins qu'il ait décidé d'en changer, auquel cas il se dirigera vers le placard et jettera son dévolu parmi les effets rangés dans le carton réservé aux sous-vêtements et aux chaussettes. Le poète, ainsi courbé vers le sol, lève le pied gauche, soulevant un équilibre instable sur son pied droit, et enfile son pied gauche de poète dans la jambière du caleçon. Il renouvelle la manœuvre avec la jambe droite, et peut enfin s'asseoir sur le lit. Le poète ramasse les chaussettes qu'il fait elles aussi à côté de son lit, et les met. Peu importe l'ordre dans lequel il les passe, mais il le fait toujours avant d'enfiler son pantalon, ce qui, pense souvent, n'est pas très esthétique, mais semble beaucoup plus pratique pour le poète que d'enfiler ses chaussettes après avoir mis son pantalon. C'est en restant assis sur son lit et par un simple soulèvement successif de ses deux jambes que le poète passe enfin celui-ci. Les jambes du poète étant passées dans le pantalon, il se lève d'un bond, remonte la ceinture jusqu'à sa taille dans un élan plein de vigueur, rentre le ventre et se boutonne. D'un geste précis, le poète saisit entre son pouce et l'index, et les yeux rivés sur la partie intéressée, le manchon de la braguette qui le remonte, ensuite précautionneusement. Le poète tout à l'heure se dirigeait jusqu'à la chaise du bureau, sur laquelle il vit le t-shirt ou la chemise qu'il va porter aujourd'hui, mais une compulsion, issue certainement d'une éducation, le pousse à mettre d'abord ses chaussures pour ne pas marcher en chaussettes sur les carreaux d'une propreté sans doute en dessin. Le poète lasse enfin ses chaussures de poète, après les avoir enfilées, et revêt son t-shirt. Les manches en premier, le col ensuite en tirant sur les côtés par un geste assez vif, ce qui lui laisse, petit plaisir matinal, Quelques secondes d'obscurité entre le moment où il a passé les deux manches et celui où sa tête resserre le col du t-shirt de Poet. Une fois habillé, le poète retourne, toujours par ce mouvement de balancement au niveau des hanches qui lui permet d'avancer une jambe après l'autre et de se mouvoir ainsi en toute aisance dans l'espace qui, pour l'instant, lui est familier, dans la cuisine, près de la cafetière où la boisson matinale est alcaloïde, doit maintenant être prête. Il prend le broc qui traîne sur les pieds depuis la vaisselle de la veille et le remplit de café. Le tenant par la hanche, le poète se dirige ensuite vers le canapé du salon, par le dépose sur la table basse, s'installe confortablement, son pouvant s'adosser sur le canapé, et se saisit de la télécommande de sa télévision de poète. C'est en appuyant indifféremment sur une des touches indiquant un numéro de chaîne ou sur celle, bien distincte par sa couleur rouge et portant la signe de stand-by, que le poète allume la télévision. Dans l'intervalle de temps qui sépare la pression sur le bouton de la télécommande et l'allumage du tube cathodique, le poète s'active pour couper le son, en portant une pression digitale, soit sur le bouton portant la mention « mute », soit sur celui qui permet de baisser le volume et signaler par le signe « mute ». Le poète aime à regarder simplement les images de la télévision pour son petit déjeuner, même s'il lui arrive souvent d'allumer en même temps la radio pour prendre connaissance d'informations relatives à l'actualité. Il se peut que le poète renverse un peu de café sur la table ou le sol carrelé, mais comme la pièce n'est éclairée que des impacts des images télévisuelles, dont l'intensité lumineuse est irrégulière, il ne se rendra que bien plus tard dans la journée. Son café terminé, café qu'il boit sans foutre, c'est une habitude comme une autre, le poète prend la direction des toilettes afin de soulager son ventre des matières fécales qu'il contient et de s'accorder de la sorte une plus grande aisance corporelle par journée. Il se peut que le poète se soit préalablement muni d'un journal ou d'un livre avant de s'installer plus ou moins confortablement sur la lunette du siège. Afin d'habituer ses yeux à l'intelligence des signes alphabétiques, le poète reste rarement plus de 3 ou 4 minutes ainsi installé. La durée effective de déchiffrage, dépendant de l'ouvrage dont il dispose, ce lieu peu propice à l'éveil électoral. Car le poète a remarqué qu'une trop longue station dans cette position ne lui infligeait pas la suite, et de façon subite, mais longue et désagréable à ses pieds, les picotements dans les jambes, gênant momentanément ses déplacements matinaux. La télévision du poète répand toujours ses impacts luminescents dans la pièce, et le poète, après être sorti des toilettes, et avoir refermé la porte, s'arrête quelques instants pour contempler les images diffusées. L'idée subite que, dans d'autres foyers et au même moment, les mêmes simulacres sont projetés dans le champ visuel de personnes semblables à lui, fait plaisir au poète. Mais le poète ne se laisse pas griser trop longtemps, et s'achemine à nouveau vers la salle de bain pour se laver les dents à l'aide de la brosse et du dentifrice qu'il trouvera normalement dans un broc à côté du lavabo. La buée a disparu du miroir qui surplombe le lavabo, et s'il estime que le poil drue qui pousse sur son visage ternit trop son apparence, le poète se rase la barbe. Avec un rasoir électrique si le poil n'est pas trop long, au rasoir mécanique et la mousse fraîche et hydratante si la barbe a plus de 2 jours. Le poète se passe une dernière fois de l'eau sur le visage, et pour se rincer, et pour rafraîchir ses paupières qui sont encore un peu lourdes. Il sort ensuite de la salle de bain et marche jusqu'à la porte vitrée qui donne sur la terrasse du poète. Il fait coulisser la porte et sort sur la terrasse. Il prend une cigarette de poète et l'allume à l'aide du briquet qui est normalement resté sur la table, ou à défaut, il retournera dans la cuisine où il se mira de la boîte d'allumettes de poète. Il se dit sans doute une fois de plus qu'il n'aurait pas dû se faire des intentions. À la saveur, mélange de tabac et de menthe, qui lui parvient sur la langue, n'est pas désagréable. Il sera obligé de se laver les dents une nouvelle fois avant de partir. Le poète écrase sa cigarette dans son billet ou la jette étourdiment dans le jardin, ce qu'il n'aime pas faire, car il sait qu'un jour ou l'autre, qu'il est lui venant, il fera la ramasser. Avant de partir, le poète veillera, bien évidemment, à fermer le poste de télévision et à éteindre les lumières, et celle de la lampe de chevet de sa chambre, de poète notamment. Ensuite, il fera coulisser la porte vitrée donnant sur la terrasse, de façon à fermer l'entrée de son logis, même si celle-ci ne peut être verrouillée de l'extérieur. Si le poète travaille, il se rend à son travail de poète, et si le poète ne travaille pas, il va casser ses occupations.
Tu vois ? Je t'avais dit qu'il allait s'arrêter.